Aujourd'hui, je vais parler des essais que nous entamons pour un hypertélescope qui ferait dans un premier temps 57 mètres de diamètre d'ouverture et dans un deuxième temps peut-être 200 mètres. Enfin, pour l'instant, on en est à vouloir entamer des essais avec cette dimension de 57 mètres. Bon, et puis à 15h, nous aurons le séminaire de Pierre Kervella sur la supergéante rouge bételgeuse à haute résolution angulaire. La voilà selon les modèles. Nous aurons un autre séminaire après les vacances par André Chiavassa sur la modélisation. Lui, c'est un modélisateur et c'est lui qui fait ce genre de modèle. Bon, comme les fois précédentes, il s'agit de parler de mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie, des galaxies, l'univers lointain. Alors, voici la découverte toute récente qui vient d'être publiée dans Nature, montrant des occultations d'une étoile par six planètes. Six planètes. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, en faisant simplement la photométrie pendant des mois, on observe pendant quelques heures, à chaque fois, une très légère atténuation de la lumière de l'étoile. On ne voit pas le détail, on ne résout pas, mais on voit une très légère atténuation photométrique de la lumière de l'étoile due au fait que la planète passe devant l'étoile, ça fait donc une petite tache sombre. On verrait, si on pouvait résoudre, on verrait une petite tache sombre devant le disque de l'étoile, donc il y a une légère baisse de luminosité. Très, très faible. Très, très faible, mais avec, grâce à la très haute sensibilité et précision de photométrie sur le nouveau satellite Kepler, qui est un télescope de l'ordre de 1 mètre dans l'espace, on arrive à voir ces très très faibles variations d'intensité, et ce télescope en cela est un petit peu meilleur que le télescope européen CNES-ESA qui avait été lancé il y a quelques années et qui déjà avait permis de faire ce genre de choses. Alors, ceci est la courbe de lumière brute et on peut la filtrer pour retirer les tendances molles, si on peut dire, et mieux voir le détail de ce qui se passe ici et ici. Et voilà à quoi ressemble le détail en question. Donc on voit qu'il y a de nombreuses occultations et on a pu les attribuer à six planètes qui ont chacune une période régulière, qui reproduisent intervalles réguliers des occultations. Et en additionnant tous ces passages, une fois la période connue de façon précise, eh bien, on obtient des belles courbes avec un bon rapport signal sur bruit que voici, qui montre à chaque fois les occultations. Alors, ces courbes sont très riches en informations. On voit en particulier de petits décalages systématiques, petites tendances à décalages systématiques qui sont dues à l'attraction mutuelle des planètes les unes sur les autres. Quand vous avez deux planètes qui sont proches, ça peut en retarder ou en accélérer une. Et donc, ça décale un tout petit peu de quelques minutes le moment de l'occultation, et ça permet donc d'analyser les masses dans ce système planétaire. Bon, alors, la dernière fois, je m'étais arrêté à peu près là, où j'avais rappelé très brièvement que pour ce qui est de la haute résolution angulaire, maintenant, pour mieux voir les détails sur le ciel, on est passé par un stade où on a utilisé des interféromètres comportant deux ou trois télescopes et qui ont permis de faire des choses mirobolantes, de commencer à voir des détails jusqu'ici invisibles sur les étoiles et même qui commencent maintenant à donner quelques images, des images grossières, mais enfin un petit début d'image. Bon, mais alors, la théorie montre que si on utilise des ouvertures petites et nombreuses plutôt que grosses et pas nombreuses, par exemple au cas dans le grand interféromètre européen au Chili, il y a 4 ouvertures de 8 mètres, ce qui est très gros, mais pas très nombreux. Et maintenant, je vais parler de systèmes qui auraient, par exemple, 100 ou 1000 ouvertures de, par exemple, 15 cm ou 20 cm. Et la théorie montre que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus sensible, ça donne des images instantanées, extrêmement riches en informations, parce que l'onde lumineuse qui vient de l'étoile et qui rentre dans l'instrument est mieux échantillonnée sur sa surface. Et bon, alors les calculs donnent le gain. Bon, enfin, en gros, ce qu'on peut en retenir, c'est que si on utilise des télescopes ou des ouvertures de 10 cm plutôt que 1 mètre, mais qu'on en met plus pour avoir la même surface collectrice, eh bien, on fait en principe, en gros, 1000 fois plus de science, hein, pour autant qu'on arrive à donner un indicateur de la quantité de science qui sort d'un instrument. Donc c'est très intéressant. Bien, alors je crois que j'ai montré ceci pour expliquer les différentes façons de construire ces systèmes à très nombreuses ouvertures. Bon, au début, on voulait faire des choses comme ceci. Il y a un groupe anglo-américain qui construit ce genre de structure maintenant au Texas, au Magdalena Ridge Observatory, avec, je crois, 6 télescopes de 1,50 m, quelque chose comme ça. Et on peut faire la même chose en conduisant la lumière par des fibres optiques. Vous savez, c'est des fils de verre fins comme un cheveu. Et si la lumière rentre par un bout, elle ressort par l'autre. Donc on prend la lumière qui sort du télescope et on l'envoie dans une station centrale pour la recombiner devant une caméra. Et on peut faire l'équivalent d'un hypertélescope comme ça. Bon, une autre solution, c'est d'avoir un miroir géant parabolique dilué, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit pointable, parce qu'un miroir parabolique, ça donne une image parfaite, mais à condition que l'étoile soit exactement sur l'axe de la parabole, sur l'axe révolution de la parabole. S'il est un tout petit peu décalé, ça ne marche plus. Donc il faut pouvoir pointer précisément la parabole. Et si on veut faire un très grand instrument de 1 km, le problème est d'arriver à faire une mécanique de 1 km de large capable de pointer l'ensemble, ce qui n'est pas facile. Bon. Et une autre solution, c'est, au lieu de prendre un miroir parabolique, prendre un miroir sphérique qui ressemble à ça, qui est représenté dilué ici aussi, qui forme une espèce d'image panoramique de tout le ciel ou l'hémisphère céleste sur une surface focale qui se trouve ici à mi-chemin du centre de courbure de la sphère. Mais cette image est imparfaite. Les rayons se croisent mal, les chemins optiques ne sont pas égaux, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique, et ce serait inutilisable, sauf qu'on peut rajouter ici un miroir ou deux miroirs pour corriger ce défaut, et à ce moment-là avoir une image parfaite, ce que je vais montrer tout à l'heure. Bon, alors ces deux solutions-là, on peut les utiliser sur Terre. Le radiotélescope d'Arecibo, c'est le même principe, c'est une cuvette naturelle de 300 mètres tapissée de tôle d'aluminium, qui réfléchit les ondes radio. C'est plus facile à faire en radio qu'en optique. En optique, ce serait trop cher de tapisser entièrement de miroirs optiques un cratère aussi grand. Et on ne peut le faire que de façon diluée, du moins pour l'instant. Bon, c'est ce genre de solution que nous appelons un Carlina, en l'honneur de cette espèce de chardon des Alpes qui contient des centaines de petites fleurs dans une grande fleur. Bon, alors ces deux solutions optiquement, peuvent être adoptés aussi pour les futurs engins qui seront dans l'espace. Alors, les projets utilisant des fibres optiques, il y en a aussi. Nos collègues Guy Perrin et ses collaborateurs à Meudon ont fait des essais encourageants en installant des fibres optiques entre plusieurs des télescopes de Hawaï sur le volcan de Mauna Kea. Ça marche, et on peut utiliser les grands télescopes existants. Bon, une difficulté, c'est qu'il faut des lignes à retard, et que la ligne à retard, c'est coûteux. Et donc, ce n'est pas utilisable pour avoir des ouvertures très nombreuses. Et une autre difficulté, c'est que il faut convaincre les propriétaires de ces différents télescopes, qui sont des organisations différentes, de prêter leur télescope la même nuit pour un programme commun, ce qui n'est peut-être pas toujours facile. En pratique, on pourrait, pour l'instant ça n'a pas été fait, mais on pourrait faire l'équivalent d'un hypertélescope avec des fibres optiques. Il suffirait de rassembler les fibres devant une caméra qui est ici, de manière que les sorties des fibres reproduisent la géométrie de l'ouverture d'entrée, mais de façon plus densifiée, c'est-à-dire que les fibres sont plus rapprochées. Bon, et le calcul montre qu'à ce moment-là, on a une interférence ici qui peut être fortement constructive si toutes les phases sont bien réglées et qui crée donc un pic d'interférence ici. Et si l'étoile est double, on va avoir un deuxième pic ici. Et si elle est triple, on va avoir un troisième pic ici. Donc on a une image ici. Donc ça, en principe, ça marche sur le papier. Bon, alors dans le passé, nous avions commencé par faire des télescopes plus ou moins classiques pour faire des interférences. Ça, c'est le système dit grand interféromètre à deux télescopes qui est sur une petite montagne près de Nice, au nord de Grasse. Et, il y a deux télescopes spéciaux de 1,50 m ici. Et c'est ce système qui, à l'époque, avait permis de convaincre l'Europe, l'Observatoire européen austral, de faire la même chose en grand au Chili avec les quatre télescopes de 8 mètres qu'ils voulaient faire. Et maintenant, ça donne des très, très beaux résultats qui, en fait, pour une fois, ont mis l'Europe au premier rang dans ce domaine. Bon, alors, nous avions quelques idées sur la façon de faire des réseaux de télescopes comme ceci. Ça, c'est une proposition que nous avions faite pour la Lune. Il y a des télescopes à pattes qui se promènent sur la Lune. Mais en fait, il vaut mieux être dans l'espace que sur la Lune. Le terrain est moins cher. Et en fait, c'est plus facile à faire. Il y a plus de place et c'est plus facile à faire. Et dans l'espace, nous avons fait plusieurs propositions à la NASA et à l'Agence spatiale européenne pour des systèmes d'hypertélescopes sous forme d'une flottille de miroirs qui sont pilotés de façon très précise pour être sur une même sphère ou même paraboloïde et qui envoient tous leur image de l'étoile sur une caméra qui est ici. Mais les agences spatiales ne sont pas encore bien prêtes à faire ce genre de choses. Elles estiment encore que c'est trop difficile pour elles. Mais nous avons toujours l'espoir de trouver un moyen de simplifier et de les convaincre. Bon, alors, j'avais parlé l'an dernier. Alors, ce que nous voulons faire, donc, c'est une nouvelle génération de télescopes et d'interféromètres qui s'appelle l'hypertélescope. J'avais montré l'an dernier les premiers essais que nous avions faits dans cette vallée des Pyrénées espagnoles, dont la courbure permet en principe de disposer des miroirs de façon de façon sphérique, condition de les tenir sur des trépieds qui rattrapent la différence entre la forme sphérique et la forme réelle du terrain. Bon, et puis ensuite nous avons demandé, donc nous avions pu à l'époque vérifier que nous arrivons à tendre un câble ici pour porter la caméra qui sera là. Non sans peine. Et ensuite, on aurait dû le faire d'abord d'ailleurs, essayer de demander l'autorisation au gouvernement d'Aragon pour continuer. Et le gouvernement me répondait toujours au téléphone. Oui, je vous envoie le papier demain. Et puis ça a duré un an, il n'est jamais venu. Alors, en désespoir de cause, nous avons cherché d'autres sites. C'est dommage, ce site était très beau. Nous avions tendu un câble, suspendu une petite nacelle et mesuré les oscillations de la nacelle, notamment avec des haubans latéraux pour bloquer ces oscillations le plus possible. Et on arrive à quelques millimètres, ce qui est suffisant comme précision pour ce qu'on veut faire. Bon, donc nous avons cherché d'autres sites et nous en avons trouvé dans les Alpes du Sud, notamment du côté entre le col de la Cayolle et Barcelonnette, où il y a une haute vallée qui a une topographie assez bonne pour cela. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit ça sur Google Earth. Et il y a un village ici un peu plus bas. Et il y a une route. Alors que dans le site espagnol, il n'y avait pas de route. Il fallait monter à dos d'âne. Ce que nous avions fait l'an dernier. On avait monté 400 kg de matériel à dos d'âne. Mais là, c'est beaucoup plus facile grâce à cette route. Ce n'est pas une route goudronnée, mais c'est une route quand même. Et Et donc, nous avons cette année mis un câble ici et des haubans ici et commencé quelques essais. L'altitude est 2100 mètres en bas, 2300 mètres ici et ici. Alors, en été, c'est extrêmement beau, il y a de très belles fleurs. L'un des versants est dans le parc du Mercantour, et le parc du Mercantour nous a donné une autorisation, du moins pour des essais. Et il y a des chamois, il y a des bouquetins, il y a des loups, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Voici vue d'en haut de l'Adret, la vallée. Donc, ça, c'est du Bac, le versant peu ensoleillé, où il y a trois couloirs d'avalanche. Et c'est le câble, enfin non, il y a plus que ça, mais enfin disons là, il y en a trois, il y en a un quatrième, il y en a un cinquième, et le câble sera amarré en haut de ce couloir-ci, enfin est amarré en haut de ce couloir-ci, de ce côté-là, et le point d'attache du hauban sud sera à peu près ici. Les avalanches sont redoutables dans le secteur, mais cette zone-là où il y aura l'amarrage du câble semble un peu protégée par la forêt qui est au-dessus. Et il y a en bas une petite prairie qui conviendrait bien pour installer au départ les éléments, les miroirs, etc. Voilà à nouveau, mais vu d'en bas. Et donc l'est est par là, l'ouest est par là, le nord est par là. Et donc l'idée en gros, c'est d'avoir sur ce câble une poulie qui roule ici. À cette poulie est accrochée la nacelle focale et trois groupes de haubans permettent de déplacer cette nacelle focale, d'une part en faisant rouler la poulie sur le câble librement, d'autre part en balançant le câble d'est en ouest. Et alors pour descendre la nacelle, on a mis une petite poulie ici et un renvoi du câble ici sur un treuil manivelle pour l'instant qui permet de descendre le câble en 5 minutes à peu près, le remonter quand on veut régler quelque chose sur la nacelle. Et la nacelle est à peu près 100 mètres au-dessus du fond. Donc la distance focale du miroir géant sera 100 mètres et son diamètre 57 mètres dans un premier temps. Mais le même site plus tard permettrait éventuellement en montant le câble un peu plus haut de passer à 200 mètres, d'avoir une ouverture effective de 200 mètres ici, ce qui est déjà intéressant pour un interféromètre, ce qui donne en résolution à peu près un demi-millième de seconde d'arc, c'est-à-dire 2000 fois meilleur que ce que donnent les télescopes classiques limités par l'atmosphère. Alors, du côté Adret, il y a un grand éboulis de gros blocs. Il doit y en avoir d'autres qui tombent de temps en temps de là-haut. Et nous avons amarré le câble à peu près ici. Voilà. En automne, les mélèzes prennent des couleurs dorées avant de perdre leurs aiguilles. Voilà donc l'un des couloirs d'avalanche, là, qui sera survolé par le câble. Et l'amarrage du hauban sud sera dans l'ombre, à peu près par ici. Alors, vous voyez le câble ici, qui est en position intermédiaire, pas dans sa position haute normale. Et les sites de l'IGN et de Google Earth permettent de regarder de plus près les erreurs de forme de la vallée. Idéalement, la vallée serait sphérique. En fait, elle est grossièrement cylindrique et très grossièrement. Mais on peut calculer les erreurs de forme en superposant sur la carte IGN, avec ces lignes de niveau ici, une carte fabriquée par l'ordinateur, un transparent fabriqué par l'ordinateur, qui porte les lignes de niveau d'une sphère, du rayon voulu, 400 mètres ici. Bon, et alors, le jeu consiste à regarder si l'espacement des lignes de niveau calculées de la carte sont à peu près les mêmes. Normalement, ça devrait être à peu près les mêmes. Et on voit que c'est grossièrement le cas ici. Vous avez des lignes de niveau assez étalées ici. Vous avez des erreurs assez faibles ici et des erreurs un peu plus importantes ici. Mais enfin, ce n'est pas énorme. Ce qui veut dire qu'il suffira de porter les miroirs sur des trépieds suffisamment hauts pour rattraper la différence et pour arriver à positionner exactement les miroirs sur une sphère. Et à la fin, une fois que tout sera réglé, le positionnement, la cosphérisation de tous les miroirs sera faite avec une précision de quelques microns. Vous savez qu'idéalement, il faudrait environ un dixième de micron, c'est-à-dire un huitième de longueur d'onde. Bon, mais en fait, il y a l'atmosphère qui permet de relâcher la tolérance parce que l'atmosphère est moins bonne que ça. Donc, quelques microns suffiront en pratique. Bon, et puis là, sur Google Earth, on voit la même chose. Le grand éboulis que j'ai montré, le couloir d'avalanche ici, l'amarrage du câble ici et par ici. Ici et ici à peu près. Bon, alors là, c'était pour vérifier que ça convenait pour implanter une ouverture de 200 mètres. Dans un premier temps, on va faire une ouverture plus petite pour faire les essais, 57 mètres, avec une distance focale de 100 mètres. Et voilà, donc le même exercice avec cette fois-ci une carte de ligne de niveau pour une sphère de rayon 200 mètres, donc distance focale 100 mètres. Et on voit là aussi qu'on est assez proche du terrain, il n'y aura pas besoin de trépied très, très haut. Et voilà comment ça s'inscrit par rapport à la route qui est ici et au torrent qui est ici. Et ceci, au bord de la route, sur un gros rocher, est le bon endroit pour mettre un théodolite équipé d'un laser, lequel permet de viser la nacelle avec une précision de un dixième de millimètre à peu près, et de surveiller sa position. À terme, ça pourrait être complètement automatisé, ça pourrait être le théodolite qui suit automatiquement. Il existe chez les marchands des théodolites équipés de laser qui suivent automatiquement une cible. Donc ça pourra suivre automatiquement la nacelle, dire à l'ordinateur si la position est bonne ou quelles sont les corrections à faire, et l'ordinateur pourra tirer plus ou moins sur les câbles pour assurer les corrections et faire la poursuite. Pour l'instant, nous allons faire les essais d'une façon beaucoup plus manuelle, ce qui permettra de le faire beaucoup plus vite, parce que dès qu'on se met à faire de l'électronique compliquée, des automatismes et des ordinateurs, il faut un an ou deux ou cinq, et on ne sait jamais si ça va marcher. Bon, et alors en hiver, il y a de la neige, il y a des avalanches, et il faudra faire attention à ça. L'an dernier, il y a eu un peu en aval, il y a eu une grosse avalanche qui a traversé le torrent et remonté de 100 mètres sur la pente de l'autre côté en détruisant au passage une forêt de gros mélèzes, qui veut dire que c'est une avalanche qui se produit rarement, tous les 50 ans, quelque chose comme ça, mais ça arrive. Alors, le montage d'essai. Donc, le câble qui traverse, qui porte la nacelle. Alors, le câble, il sera, il sert seulement à appliquer une force verticale. Il sera élastique, si vous voyez. Il sert de force de rappel. Et en fait, il n'est pas droit comme ça. Il y a un peu de flexion. Cette flexion donne de l'élasticité, qui fait que la force exercée verticalement est à peu près constante. Et cette force sert simplement à donner de la tension à ces hauts bancs, lesquels, eux, doivent être très rigides pour avoir une position bien définie de la nacelle. Bon, alors il ne suffit pas de trois hauts bancs. Trois hauts bancs permettraient de piloter la position de la nacelle en tirant dessus, mais ça ne permettrait pas de piloter en même temps son orientation. Et nous, il faut qu'on pilote à la fois sa position et son orientation. Vous savez que tout corps solide a 6 degrés de liberté. Il faut contrôler 6 paramètres pour contrôler un corps solide. Et là, c'est la même chose. Alors, pour cela, ce hauban est en fait triple, avec trois treuils ici qui tirent sur les trois fils. C'est du fil de 1 mm à haut module Young, donc très peu élastique. Et ici, il suffit d'un fil, et ici, par contre, il faut deux fils. Alors, avec cette combinaison de fils, on arrive à piloter complètement la position et l'orientation de la nacelle. Alors, l'orientation de la nacelle, en principe, son axe optique doit constamment viser l'étoile, qui se trouve dans l'alignement du centre de courbure du miroir géant, ici. Bon, et puis on a intérêt à positionner ce treuil-là près de l'intersection de l'axe du monde. Ça, c'est l'axe du monde. Et son intersection avec le sol est quelque part par là. Et puis ce treuil-là, on a intérêt à le mettre à l'est et celui-là à l'ouest pour faire grossièrement un tétraèdre enfin angle droit. Et puis le théodolite, on a intérêt à le mettre à un endroit commode, c'est-à-dire au bord de la route, et sur un gros rocher pour qu'il ne bouge pas. Et du coup, on n'a pas besoin d'un trépied, on le fixe, on le boulonne sur le rocher, et la stabilité est garantie. Alors, si on veut... Alors, la lumière de l'étoile, c'est ce qui est rouge, là, ça vient de là-haut. Ça tape sur une partie du miroir géant, là, qu'on a représenté ici, et lequel focalise ici sur la nacelle. Bon, alors, il y a deux solutions. Soit on met une caméra sur la nacelle, ce qui se fera peut-être un jour, mais on peut aussi, et c'est ce qu'on va essayer au début, mettre un petit miroir ici qui renvoie un faisceau ici sur un petit télescope qui récupère la lumière équipé d'une caméra pour filmer. Bon, et puis on s'arrangera pour avoir ici formation d'une image du grand miroir. C'est un plan pupille relayé de celui-ci qui se formera ici. Enfin, ça, c'est pas essentiel. Bon, et puis alors les miroirs. Les miroirs, ils vont être portés sur des trépieds très rigides. Nous avons construit plusieurs prototypes. Et alors ils sont ancrés dans le sol par des pieux de long comme ça, et comme le sol c'est de l'éboulis, c'est le bas de l'éboulis qui vient de la falaise, c'est de l'éboulis stabilisé, hein, des éboulis qui doivent être là depuis des milliers d'années, ils ne bougent plus beaucoup, du moins on espère, et donc on pense que ça va être très stable. Et il y aura trois vis de réglage pour l'orientation et pour la hauteur du miroir. Bon, alors l'orientation, c'est important pour que toutes les images venant de tous les miroirs soient bien superposées sur la caméra. Et les hauteurs, c'est important pour que les chemins optiques soient tous égaux à quelques microns près. C'est-à-dire les chemins optiques, c'est-à-dire la distance de parcours de la lumière depuis l'étoile, par le miroir et jusqu'à la caméra. Il faut que tout ça soit égal pour tous les miroirs. C'est la condition qui permet d'avoir tout en phase et donc d'obtenir une interférence fortement constructive. Alors, les miroirs en question, on trouve chez le vitrier du coin du verre ordinaire épais de 15 mm qu'on lui fait découper en morceaux grands comme ça de 15 cm pour 20 euros. Donc même si on met 100 au mille miroirs, ensuite il faut les polir. Il faut les polir ou bien les répliquer. Répliquer, c'est-à-dire mouler dessus une mince couche de résine qui prend la forme voulue exacte, très légèrement concave. Pour l'instant, nous en avons fait polir 4 par l'opticien David Vernet de notre équipe. Et il nous dit que ça ne lui ferait pas peur d'en polir une centaine dès qu'on aura essayé avec les 4. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais ça ne coûtera pas cher. D'autant que ça coûtera moins cher qu'un miroir classique de même surface totale, parce que le miroir classique serait plus épais, donc il y aurait plus de verre. Et en plus, comme c'est des petits miroirs, on peut prendre du verre ordinaire au lieu de prendre du verre de luxe à très faible dilatation. Et le verre ordinaire est beaucoup moins cher. Alors, l'IGN a pu envoyer une équipe pour faire une topographie précise, précision de 2 cm, en utilisant un GPS différentiel et un balayage laser. Alors ça a permis de préciser exactement les écarts, de calculer comment disposer le mieux possible la sphère par rapport au terrain pour que ça colle le mieux possible et de préciser exactement la hauteur qu'il faudra donner à chaque trépied. Alors les trépieds seront censés ne pas vibrer à l'échelle du dixième de micron pendant les observations. Il faut donc qu'ils soient un petit peu plus costauds que les trépieds photographiques ordinaires. Mais nos essais avec un interféromètre avec des franges laser ont montré que ça, il n'y a pas de problème. S'ils sont en acier un peu costaud, un peu rigide et un peu amorti, ça, la condition est satisfaite. En effet, si vous avez une vibration, s'ils montent et descendent d'un dixième de micron, ça vous fait 2 dixièmes de micron d'effet sur le chemin optique et donc ça déplace les interférences. Plus que lambda sur 4, un quart de frange. Et donc vous auriez un brouillage des franges. Bien, alors voilà donc à partir des données de l'IGN mesurées à 340 points, le technicien de l'IGN a passé une journée à courir en long et en large partout, dans la neige profonde. Et ce qui a permis de faire une carte des erreurs, c'est-à-dire des défauts, des écarts entre la sphère et le terrain, qui sont représentés par ces barres ici. Ça, c'est une vue de dessus. Et la hauteur de ces barres représente les défauts. Là, c'est l'échelle, c'est 100 mètres. Et c'est la même échelle ici pour la hauteur des défauts. Là, c'est une vue du sud. Non, pas du sud. Si, du sud. Et ça, c'est une vue de l'est. Et ça, c'est une vue dans ce plan là, ce plan ici, le plan équatorial passant par la nacelle, où on voit le mouvement de la nacelle pendant une heure avant le transit et le mouvement des câbles qui la pilotent. Alors pour les premiers essais, on aura intérêt à boucler ces deux câbles là. Pour se contenter d'avoir un seul moteur pour l'entraînement. Alors, la nacelle. Alors, finalement, cette nacelle, c'est une espèce de marionnette à 6 fils qu'il faut arriver à piloter. Et dans un premier temps, on veut que ce soit complètement passif. On ne veut avoir aucune électronique, aucun moteur là-haut, aucune caméra, pour faire un système très simple, piloté manuellement et qu'on puisse construire rapidement. Donc la nacelle, elle porte une optique avec 2 miroirs, enfin un miroir ici, qui fait 15 cm lui aussi, un miroir ici, qui est très asphérique et qui sert à corriger l'aberration sphérique du grand miroir primaire. Et ces deux miroirs sont fixés sur un tube qui est là et qui contient quelques lentilles et le petit miroir plan qui renvoie au sol la lumière de l'étoile. Bon, alors pour positionner ça, il suffit de tirer globalement sur ce groupe de câbles ou celui-là. Et pour l'orienter, il faut tirer différemment sur ce fil-là et ce fil-là, ce qui va produire un débattement nord-sud, ou bien sur ce fil-là et ce fil-là, où est-ce qu'il est passé ? Oui, là, ce qui va produire un débattement est-ouest. Voilà. Bon, et puis si on veut monter et descendre l'ensemble de la nacelle pour corriger la mise au point, le foyer, eh bien, il faut tirer à la fois sur ce câble-là, ce fil-là, ces deux fils-là et ces trois fils-là. Donc, il faut arriver à mettre ce qu'il faut comme manivelle ou comme moteur plus tard pour arriver à piloter ça harmonieusement, même si on n'est pas un champion de marionnettes. Quelques amateurs astronomes se sont proposés pour venir donner un coup de main. En fait, il faudra au moins une personne là-bas, au moins une personne ici, au moins une ici. Il faudra qu'elles arrivent à communiquer et à faire des corrections coordonnées, ce qui ne sera pas forcément facile. Bon, mais évidemment, plus tard, tout ça pourra être automatisé et on peut espérer que ça se passera plus facilement. Alors, en particulier, deux jeunes ingénieurs de Centrale Lille ont bénévolement fait une pré-étude de l'automatisation très intéressante où ils ont repéré toutes les solutions possibles. Alors les treuils, alors à l'est et à l'ouest, ça c'est à l'est par exemple, alors, il y aura simplement un piquet dans le sol portant trois petites poulies. Et puis il y aura un petit moteur qui va représenter ici, et puis un système différentiel pour pouvoir faire cette rotation est-ouest de la nacelle. Ah oui, voilà le système différentiel. Non, ça c'est le nord. C'est au sud. Ça c'est le piquet au sud qui aura trois fils. Le piquet à l'est en aura deux, et le piquet à l'ouest en aura un seul. Donc le système au sud, ça ressemblera à ça, avec un système différentiel avec des poulies qui permettra en principe de séparer les composantes de mouvement nécessaires. Et même chose ici, là c'est un dessin dans le plan équatorial, et là il y aura deux poulies à l'est et une à l'ouest. Voilà, et puis ils ont reproduit ce dessin classique pour les projets complexes où vous, sur les phases de ce genre de projet, alors au début, il ne faut pas s'intéresser aux détails, et puis ensuite, il faut s'intéresser de plus en plus aux détails. Et puis, quand on arrive au stade de la fabrication, au début, c'est les détails, et puis ensuite, il faut intégrer, et puis ensuite, il faut arriver à faire marcher tout l'ensemble. Alors, l'optique. Alors, dans la nacelle, vous avez ces deux miroirs. Ça, c'est le miroir numéro 2. Ça, c'est le miroir numéro 3. Le miroir numéro 1, c'est le grand miroir dilué qui est au sol. Et celui-là est sphérique, que voici. Et celui-là est très fortement asphérique. On voit ici qu'il est très déformé. Il n'a pas du tout une forme sphérique. Il ressemble à une madeleine, vous voyez. Bon. Et pourquoi ? Parce qu'il lui faut corriger les erreurs de chemin optique venant du grand miroir sphérique, qui, étant sphérique et non parabolique, introduit ses défauts. Bon. Alors, traditionnellement, en optique, on ne savait pas faire des miroirs non sphériques. Les méthodes de polissage optique donnent une précision extraordinaire, vous savez, bien meilleure que les machines mécaniques dites de précision. Une machine mécanique de précision, ça fait 10 microns comme précision. Alors que traditionnellement en optique, depuis des siècles, depuis Descartes qui polissait des lentilles déjà, et Spinoza aussi, ça intéressait les philosophes à l'époque, et ils se sont aperçus qu'avec des moyens extrêmement primitifs, en frottant manuellement deux morceaux de verre l'un sur l'autre, on arrivait à faire une qualité de surface extraordinairement précise, bien plus précise que les machines mécaniques de précision. Par exemple, précise avec une précision de lambda sur 100, c'est-à-dire 5 nanomètres. Bon. Et pourquoi ? Et parce que, par le miracle du fait que quand il y a une bosse, quand on frotte deux morceaux de verre l'un sur l'autre, quand il y a une bosse à un endroit, eh ben, c'est elle qui va être usée le plus vite, parce qu'elle dépasse. Bon, et automatiquement, ça fait une statistique qui fait qu'automatiquement, toutes les bosses sont usées et la surface prend une forme extrêmement précise. Bon, alors ça marche pour des surfaces sphériques, parce que quand vous frottez une sphère sur une autre sphère de même rayon, le contact peut se faire partout, quel que soit le décalage de l'une par rapport à l'autre. Bon, mais si elles ne sont pas sphériques, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, les opticiens, jusque ces dernières années, étaient incapables de produire, de tailler des surfaces non sphériques. Mais depuis quelques années, ont été fabriqués des tours de très haute précision pilotés par ordinateur dont l'outil est un diamant spécialement taillé qui est capable de retirer un copeau extrêmement fin, beaucoup plus fin que les outils de tour classiques en acier dur. Et si on taille un miroir en aluminium avec un diamant comme ça, on arrive à atteindre la qualité nécessaire pour les miroirs et on peut donner une forme quelconque. Alors il se trouve qu'il y a en France l'une des rares sociétés en Europe qui sont équipées pour ça. Et qui a pu nous tailler un miroir de 15 cm, très asphérique et de très bonne qualité. Bon, alors, vous remarquerez qu'il y a dans ce miroir des fentes découpées. C'est parce que une partie des rayons qui viennent du grand miroir primaire, des petits miroirs, veulent traverser ce miroir pour aller frapper ici avant de revenir ici et de repartir ici. Le trajet des rayons, c'est que la lumière vient ici, tape là, revient là, et là, ça donne un cône de rayon bien remis en ordre, qui vient exactement se croiser ici, parce qu'on a calculé ça pour ça. Et ici, donc, on a une image très précise qu'on reprend avec un objectif, genre objectif de microscope, pour l'agrandir, et pour la conditionner, comme je l'expliquerai, avant de l'envoyer sur la caméra. Bon, mais certains des rayons qui viennent de M1 veulent traverser ce miroir-là. Et c'est pour eux qu'on a aménagé des découpes. La règle du jeu étant de trouver une forme de découpe qui perd le moins de lumière possible. Peut-être que plus tard, on pourra utiliser, au lieu de cela, un miroir effaçable. Il y a un fabricant américain qui vient de sortir un nouveau gadget, mirobolant, un morceau de verre sur lequel vous avez des électrodes transparentes, vous avez une couche mince, et quand vous mettez la tension, ça devient un miroir, un très bon miroir, et quand vous retirez la tension, ça devient complètement transparent. L'une des applications, ce serait pour mettre sur les fenêtres des immeubles. Le jour où il y a du soleil, s'il y a trop de soleil, on appuie sur le bouton, ça devient réfléchissant. Bon, alors apparemment, ce type de miroir est de qualité optique et on pourrait à ce moment-là avoir un hublot ici déformé portant cette couche mince et ces électrodes et l'ordinateur ferait apparaître une petite zone réfléchissante simplement à l'endroit où c'est nécessaire pour renvoyer, si par exemple on a besoin de réfléchir ce rayon-là, on fait apparaître une petite facette réfléchissante qui va réfléchir seulement ce rayon-là et laisser passer les autres rayons qui essayent de venir de M1. Bon, ça c'est la même chose. Avec tous les rayons, tous les faisceaux, il y a 69, les rayons de 69 miroirs qui sont sur M1. Bon, alors, ensuite, vous avez un petit trou au milieu du miroir M2, ici, et l'image se forme au centre de ce trou et est reprise par un objectif de microscope qui l'agrandit 10 ou 20 fois, ici. Donc vous avez ici une image agrandie de votre étoile. Bon, mais pour l'instant, c'est une image fiso, c'est-à-dire que c'est la même image, le même genre d'image que si vous aviez un télescope géant et vous mettez devant un carton percé de 69 trous. Bon, alors c'est pas mal, mais c'est pas assez lumineux, ça utilise mal la lumière. Et l'idée de l'hypertélescope, c'est de densifier la pupille pour augmenter beaucoup la luminosité. Bon, alors, en plus ici, le champ des interféromètres, c'est-à-dire la partie du ciel qu'ils peuvent regarder à un moment donné, est extrêmement étroite. Mais ici, si on met on peut séparer plusieurs canaux de champ, c'est-à-dire mettre des lentilles ici qui vont découper le champ en petits morceaux pour former des images indépendantes de différentes parties adjacentes du ciel. Bon, alors, donc vous avez une mosaïque de 25 lentilles à peu près qui vont vous donner 25 petits morceaux de ciel séparément, complètement indépendants. Bon, et puis alors, ces lentilles forment une image de la pupille, c'est-à-dire du miroir M1. Ici, alors là, c'est pareil, vous avez ces 25 canaux, et dans chacun de ces canaux, vous avez un densifieur de pupille qui est de la micro-optique, qui fonctionne comme ceci. Ce sont des petites lunettes de Galilée à l'envers. Vous avez une petite lentille divergente, une petite lentille convergente, et ça vous élargit le faisceau. De sorte que, vu de la caméra, on a l'impression que les faisceaux remplissent ou presque l'ouverture totale, alors que vu de l'étoile, les faisceaux sont extrêmement dilués sur le miroir M1. Bon, alors en pratique, voilà le prototype. Vous reconnaissez le miroir M2 ici, sphérique, le miroir M3 sphérique ici avec ses fentes là. Donc la lumière fait comme ça, traverse le trou qui est ici dans M2, traverse l'objectif de microscope, arrive ici là-dessus, puis là-dessus. Et là, après, on peut mettre soit une caméra, soit un miroir plan qui renvoie au sol. Ah, puis alors là, vous voyez la matrice de M3. C'est un morceau d'aluminium qui a été taillé au tour diamant avec une précision d'ordre du micron et qu'on utilise. On en fait un moulage. On pose dessus un morceau de verre qui était déformé au four pour avoir à peu près la forme. Mais pour avoir exactement la forme, on met une goutte de résine durcissable, par exemple de l'époxy ou un autre produit. On attend que la résine durcisse. Donc la résine est coincée, forme une mince couche de 20 microns ou 50 microns entre le moule, la matrice qui est ici, et le morceau de verre qui est posé dessus. On attend que la résine durcisse. Ensuite, on décolle en espérant que la couche de résine va se décoller du métal du miroir, là, de la matrice, et va rester collée sur le morceau de verre, ce qui n'est pas toujours gagné. Et on se retrouve ainsi avec un morceau de verre portant une mince couche de résine qui a pris l'empreinte exacte de la forme de la matrice, et cela avec une très grande précision. C'est une méthode qui est souvent utilisée en optique pour faire des composants qui seraient trop coûteux, trop difficiles à faire individuellement, mais dont on a besoin d'un certain nombre de copies. Bon, par exemple, les réseaux de diffraction. Il y a un siècle, il y avait une machine au monde qui fabriquait des réseaux de diffraction en taillant des millions de traits avec un diamant de façon extrêmement précise dans un bloc de métal. Mais ça coûtait extrêmement cher, il fallait un mois de travail pour le faire. Jusqu'au jour où quelqu'un a eu l'idée de faire ce genre de moulage. et ça a permis à l'époque de vendre des réseaux de diffraction pour les spectrographes. C'est grâce à ça que toute la spectroscopie moderne a pu évoluer. Bon, alors, voilà, donc ici, vous avez le petit laser a l'air de faiblir. Et ces gadgets-là sont des viseurs d'alignement. Alors, ce genre d'optique, ça se calcule avec des logiciels complexes qui permettent de simuler le trajet des rayons et de calculer les effets d'interférence, de diffraction, pour donner des images réalistes. Bon, alors, voilà M1, voilà la nacelle, voilà M2, M3. Alors ensuite, vous avez un gadget dont je n'ai pas parlé qui permet de corriger petites erreurs de distorsion de la pupille. Je n'ai pas le temps d'en parler. Et là, vous avez la pupille densifiée ici. Bon, et puis là, vous avez... vous avez l'image d'une étoile binaire. Alors, si je clique ici, il doit y avoir... Ah non, il y a une vidéo, mais ça n'a pas l'air de marcher. Bon, vous avez une étoile binaire. Vous voyez qu'en théorie, cette image, c'est presque la même que donnerait le miroir géant complet de 57 mètres. C'est-à-dire une image qui aurait une résolution de 1 millième de seconde d'arc à peu près. Et ici, effectivement, vous avez l'image d'une étoile binaire espacée de 1 milliseconde. Vous voyez qu'on commence juste à voir qu'elle est double. Les deux images sont presque séparées. Et là, vous voyez une autre binaire un peu plus espacée, 2 millisecondes. Donc, ce genre d'optique, en supposant qu'il n'y ait pas d'atmosphère, que tout soit en phase, vous donne effectivement la même résolution qu'un télescope de 57 mètres. Et si on fait plus grand, ça donnera l'équivalent de télescope plus grand. Bien, alors l'étude optique permet aussi de voir l'effet des erreurs d'alignement du système, ce qui est très, très utile. Voilà l'image d'une étoile en fiso, c'est-à-dire avant le densifieur de pupille. C'est l'image qu'on obtient, par exemple, dans le trou du miroir M2. Bon. Et la même chose, mais avec une erreur de 0,4 secondes d'arc pour la position de l'étoile. C'est-à-dire que l'étoile, au lieu d'être sur l'axe optique, est à 0,4 de l'axe optique, et l'image est un peu moins bonne. Bon, et ensuite, à la sortie, l'image finale à la sortie du densifieur, là, vous avez une image parfaite. Là, vous avez une image également très bonne. Donc, on peut dire que on a au moins cette étendue de champ disponible dans l'un des canaux de champ. Bon, et puis là, c'est ce qui se passe si on met des phases aléatoires, c'est-à-dire pour simuler l'effet de l'atmosphère. Et on voit qu'à ce moment-là, l'image est détruite et remplacée par un paquet de speckles, de tavelures. Et c'est ce qu'on aura quand on observera dans un premier temps. On n'aura pas d'optique adaptative et on verra quelque chose comme ça qui bougera comme une casserole d'eau bouillante en réponse au déphasage que produit l'atmosphère. Bon, et ça, c'est les profils de cette image-là. Bien, pour terminer pour aujourd'hui, Les essais que nous voulons faire maintenant, dans les mois qui viennent, seront simplifiés. Il y aura en fait en tout et pour tout un seul moteur situé ici et qui fera l'entraînement horaire, c'est-à-dire qui baladera la caméra tout doucement le long de l'image, pour suivre l'image de l'étoile ici. Bon, et les corrections seront faites manuellement et ce sera surveillé par le théodolite laser. Il n'y aura pas d'électronique dans la nacelle. Donc l'idée, c'est de reprendre un peu la stratégie que nous avions utilisée il y a bien longtemps, en 1974, à l'époque où j'avais essayé de faire un premier interféromètre à deux télescopes, qui étaient à l'observatoire de Nice à l'époque. On avait construit deux petits télescopes et les faisceaux coudés arrivaient dans une cabane. Et on avait obtenu des interférences. Et on était parti après le groupe du MIT qui avait un projet du même genre. Et on était arrivé bien avant. On avait réussi bien avant, et tout ça parce qu'on avait trouvé des astuces mécaniques qui permettaient de remplacer une électronique complexe pour le pilotage. Et donc, on avait gagné beaucoup de temps de ce point de vue-là. Bon, et puis les perspectives après, si ça marche, si les essais sont concluants, on apprend toujours quelque chose en faisant des essais. Donc, on va commencer avec deux miroirs seulement. On va essayer d'obtenir des interférences. Et si on en obtient, on sera à ce moment-là, on se dira que si on y arrive avec deux, on doit y arriver avec 100. Et on sera très impatient d'installer 100 miroirs. Et en principe, ça peut se faire assez rapidement, peut-être en un an. Bon, à ce stade-là, il faudra probablement automatiser le pilotage. Et puis, il faudra, si on veut augmenter la science, à un certain stade, il faudra agrandir à 200 mètres, dimension de l'ouverture. Dans un premier temps, on observera sans optique adaptative, en interférométrie des speckles. Des collègues indiens ont fait des essais qui ont permis de vérifier que ça marche aussi avec les ouvertures diluées comme celle-ci. Et dans un deuxième temps, il faudra mettre de l'optique adaptative pour avoir une performance meilleure. Il faudra essayer de mettre une étoile guide laser pour observer des étoiles extrêmement faibles ou des objets extragalactiques. Et puis, il faudra envisager de proposer à l'Europe un hypertélescope à l'échelle d'un kilomètre. Qui pourrait peut-être se faire pour beaucoup moins cher que le Extremely Large Telescope européen de 42 mètres qui est à l'étude actuellement. Enfin, c'est peut-être pas ça l'argument. L'argument, c'est que évidemment, ça permettra en principe, à surface égale, ça donnera la même sensibilité aux objets faibles, mais avec une résolution bien meilleure. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, alors pour un instrument kilométrique, il faudra des plus grandes vallées. Alors nous avons une étudiante indienne, enfin une étudiante non, une jeune chercheuse indienne dans l'équipe qui nous a trouvé cette vallée dans l'Himalaya. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent se geler les pieds, c'est un bon endroit. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Avez-vous des questions ?